en frío, porque el precio no provoca.
À l'affiche.
Toi, t'es allé au ciné dernièrement ?
Oui, oh, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé.
Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi.
Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même.
Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on...
C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs.
Oui,
on peut parler
pas.
De séries aussi.
Ah oui, il y a du boulot là.
C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion.
C'est ça, et de vérité, de curiosité.
Bref, on veut faire rêver, quoi.
Oui, oui, et continuer de rêver nous-mêmes.
Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche.
Ou pas.
Ou pas. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. D'ici d'aujourd'hui, de demain, nous sommes sur les Hauts de Rouen, sur le mix des cultures avec Marianne aux manettes et Geneviève au micro. Et surtout Geneviève, parce que moi, j'ai vu qu'un seul film, là, dans cette série.
Bonjour Elvire. C'est pas grave. C'est pas grave, le tien est très important et moi je ne l'ai pas vu non plus, donc on est complémentaires.
Ça tombe bien, on est complémentaires. Je vois une belle photo, j'aime bien cette photo des brochettes de femmes, la maison des femmes.
Le film de Mélissa Godet,
oui.
que je place dans les films utiles. Même s'il n'est pas parfait, c'est utile de savoir qu'il y a une maison des femmes qui existe, son rôle, qui l'a créé, à quoi elle sert. Vraiment, et donc du coup, ce film-là vaut le coup d'être vu pour aller à la rencontre de ces femmes, chirurgiennes, simplement assistantes sociales ou infirmières. Quand je dis simplement, c'est pas dévalorisant, c'est simplement qu'il y a plusieurs catégories de personnel, même simplement de l'animation. Et donc des femmes qui ont été battues, violences conjugales ou violences professionnelles, ou des femmes qui ont été circoncis.
Mais dans l'autre sens,
oui,
quoi.
Dans l'autre sens.
Enfin, ça nous arrive, mais pas pareil.
Oui.
Qui ont été coupées aussi, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, comment on les reconstruit physiquement et moralement. Donc, voilà, ce film-là est intéressant. Les actrices qui ont été engagées sont elles-mêmes très engagées dans leur rôle. On voit qu'elles sont très contentes d'avoir participé. On compte quand même la Rouennaise Karine Viard, Laetitia Deutsch, Aïe Haïdara, Oulaya Amanra et Juliette Armanet. Juliette Armanet, elle a un petit rôle, mais bon, c'est toujours agréable.
Ouais. Ça reste une fiction.
Ça reste une fiction. Il y a aussi un homme, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, Pierre Delon-Ladonchamp, qui joue le rôle d'un psy. Voilà. Donc c'est une fiction, mais basée sur l'histoire vraie de cette maison.
Maison des femmes, il y en a plusieurs des maisons des femmes en France.
Bah justement, depuis cette création-là, il y en a 8, dont une au Havre. Et ça, moi, je ne savais pas, donc c'est déjà bon à savoir. Donc il y en a 8 maintenant, il y en a une à Marseille, à Rennes, à Poitiers, à Montpellier, à Tours, à Clamart, à Toulouse et au Havre. Il n'y en a pas encore à Rouen.
Ça va pas tarder. On écoute la bande-annonce.
La maison des femmes, bonjour.
Alors, c'est Amina, c'est ça ?
C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose.
Et là, on donne tout. 3, 2, 1.
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi du coup les patientes sinon on ferme ?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer.
Putain, mais si nous on peut pas être là pour celles qui ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi là, les statistiques, là, tout ce bordel là ?
Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service.
Oh, moi tu sais, ça me dérange pas les ouf.
Bah évidemment, c'est ton fond de commerce.
Amina, souris-moi.
Ça arrive pas.
T'es magnifique.
Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Beyoncé, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein.
Ah, même pire, si ça se trouve. Hein.
Amina, Amina, Amina.
Pierre, puissante.
Amina, Amina, Amina.
Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire.
Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre.
Et puis quand ça marche pas, on va se brûler la gueule.
Et du coup, vous faites quoi ce soir ?
Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide.
Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux.
Merci.
Juste à la bande-annonce, comme ça, j'entends des choses qu'on semble déjà avoir entendues et qu'on reconnaît, mais mine de rien, c'est bien d'en parler, et c'est des bonnes émotions, et c'est de la sororité.
Oui, c'est ça. Voilà. Et elle fait vraiment une fiction, c'est pas un documentaire sur une maison. Elle profite de... elle parle de la maison qui est en danger, donc tout le monde se bagarre pour qu'elle revienne. La maison subit une inspection pour savoir si on va mettre encore de l'argent. Donc il y a un suspense par là, avec des gens qui paraissent d'abord méchants, mais en fait ils sont gentils. Et puis il y a le Covid qui arrive, et là leur travail à distance est encore plus important, parce que forcément les femmes battues, quand ils sont obligés d'être enfermés dans leur famille, sont plus en danger encore. Donc voilà, elle mène son petit scénario correctement pour nous donner une histoire à raconter, quoi.
D'accord, bien. Little Trouble Girls.
Alors là, c'est un film slovène.
Donc on ne mettra pas la bande-annonce, j'ai fait exprès. Oui.
L'annonce, et du coup, je ne suis pas prête.
Je vais trop vite, pardon.
Non,
alors écoute, sinon on peut passer au son des souvenirs. Le son des souvenirs, c'est pareil, de Olivier Hermanus, on ne mettra pas la bande-annonce. Et donc le temps que tu retrouves ton petit papier, c'est moi qui vais parler, puis comme ça après vous ne m'entendrez plus pendant le reste de l'émission ou presque, parce que ce n'est pas très facile de me faire taire. Alors, non, j'avais beaucoup aimé ce film-là, History of Sound, parce que c'était très doux, très délicat. Alors, le film dure 2 heures. C'est un film en anglais. C'est très poétique. Pour ceux qui se souviennent de... mince, je vais faire ma Geneviève. Brokeback Mountain, vous vous souvenez? Oh, c'était absolument magnifique, ce film-là, qui évoquait l'histoire d'amour entre deux hommes sur une période où c'est absolument interdit, donc absolument impossible, mais même dans leur tête. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont tiraillés, que c'est une évidence, mais... juste l'impossible, et donc ils se cachent l'essentiel, c'est-à-dire leur vie. Et si le film est long, je mets vraiment des guillemets, c'est parce qu'il prend le temps de nous immerger dans l'improbable. L'histoire n'est absolument pas impossible en soi, au contraire, elle est extrêmement délicate et délicieuse. La différence avec Brokeback Mountain, c'est qu'il n'est jamais question de passion, et que l'amour est en creux. C'est pour ça que vraiment c'est très délicat, c'est très fin. L'histoire traite d'une quête de son d'abord. Alors pour nous qui aimons la radio et les sons, c'est vraiment merveilleux d'entendre avant de voir. De balade et d'oreille absolue, en contraste avec l'impossibilité de communiquer les véritables émotions. Quand l'amour nous échappe et qu'il nous saisit en silence, c'est aussi délicat que de ramasser les plumes perdues pour les remettre, sans mot dire, dans l'oreiller d'où elles proviennent. Alors évidemment, je ne voulais pas vous spoiler, mais ça évoque quelque chose de tellement beau. C'est vraiment comment on fait les choses pour ceux qu'on aime, sans avoir besoin de leur dire, sans avoir besoin qu'ils s'en rendent même compte. C'est pas grave, on le fait par amour vrai. Et tout est là, tout est dans les non-dits, ce qui donne des airs de délicatesse au long métrage. Et puis vraiment, tous mes mots sont pesés quand je vous dis ça. Il méritait d'être dans la sélection officielle, à n'en pas douter, mais sans doute est-il trop discret pour prétendre à une palme. C'est ce que j'ai écrit avant même d'avoir les résultats de la palme à Cannes. Hein. Mais vraiment, vous ne risquez rien à aller le voir, à prendre votre temps à découvrir, parce que quoi qu'il arrive, on reconnaît des choses de l'ordre de l'amour absolu comme de l'ordre de l'oreille absolue. Et sur cette histoire qui est vraie, on va enregistrer des sons pour ne pas oublier les chants folkloriques qui disparaissent et tout ça, c'est des choses qui sont réelles également et qui font partie de notre histoire et qui ne sont pas assez dites, pas assez connues. Enfin voilà, j'ai passé un délicieux moment dans ce film-là, avec ce film-là. Merci à l'équipe, merci à tous.
Et dedans joue Paul Mescal, oui, qui est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Hamnet.
Donc oui, qui est assez extra, ce mec, très dingue.
Ouais. Oui, c'est étonnant.
Une palette.
J'aime moins dans Gladiateur 2, mais dans les autres films, il est...
Ah oui, il est très étonnant.
Et c'est un film britannique ou américain?
Britannique.
Britannique, voilà. Bon, je ne sais plus si vous l'avez dit, je suis désolée si je fais répéter.
C'est pas grave.
Donc après la France, la Grande-Bretagne, on va en Slovénie, c'est déjà plus rare. Hein. Moi, je ne vous emmène pas. Hein.
Alors c'est un film britannique, mais qui se passe aux États-Unis, hein.
Oui,
on est
oui,
sur les grandes...
Okay. Oui, oui. Mais
le style.
Voilà, le style. Est-ce que c'était plutôt hollywoodien ou britannique? C'était... Voilà, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc là, on va vers un film slovène, donc un peu plus slave.
Oui.
Et pour aborder un sujet assez courant, donc ça s'appelle Little Trouble Girls. Et c'est un sujet assez courant au cinéma, l'éveil à la sexualité des jeunes filles j'irais sensualité même seulement, d'une jeune fille. Ça, on le voit souvent au cinéma, mais là, c'est vu à travers des jeunes filles slovènes. Donc, et alors, pourquoi je jubile avec ce film, c'est que ça se passe dans une chorale de filles, voilà. Alors, c'est une jeune fille réservée, timide. La maman est autoritaire, on le voit, une seule scène suffit pour qu'on voit qu'elle est autoritaire, que bah, elle ne doit pas pouvoir faire tout ce qu'elle veut, la petite, elle ne doit pas sortir beaucoup. Et donc, elle intègre pour la première fois la chorale de son école de filles. Il n'y a que des filles. Bon, voilà. Et cette chorale organise au bout d'un certain temps un petit week-end de 3 jours dans un couvent pour faire un stage de chant. Voilà. Dans ce couvent, il y a des religieuses, mais il y a aussi quelques ouvriers qui font des travaux, etc. Donc ça, c'est simplement le décor, le contexte pour expliquer comment des filles se retrouvent ensemble, vont papoter à droite, à gauche, dire du mal des unes et des autres, regarder les hommes, les filles papoter, parler de sexe forcément d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et tout ça, c'est très très bien filmé, comme avec le contraste entre une fille plutôt gonflée et puis l'autre très réservée, très discrète, et puis qui va s'éveiller peu à peu. Et si je parle de chorale, c'est que souvent je suis très énervée quand il y a des chorales dans les films parce qu'elles chantent merveilleusement bien, toujours. Alors que bon, si on répète une heure par semaine,
c'est pas pour rien.
Oui, mais ça suffit pas.
Non, ça suffit pas
pour faire quelque chose d'aussi merveilleux que ce qu'ils produisent. Là, c'est beau, mais c'est justifié puisque c'est une chorale qui répète plus souvent, qui fait des stages d'entraînement. Enfin bref, pour une fois, on n'a pas l'impression qu'on se fout de nous, quoi.
Okay.
Elles travaillent et on voit l'évolution de leur travail. C'est ça qui est bien, c'est que
on entend
et leur chef leur donne une indication qu'elles arrivent à suivre, donc on arrive à percevoir. Donc déjà, ça, c'est intéressant, c'est juste, tout est juste, aussi bien le rôle des jeunes filles et le... Voilà.
Donc, d'accord, un regard juste et une écoute juste.
Voilà,
ce qui est agréable,
c'est bon pour les yeux, les oreilles.
Donc à voir.
Oui, c'est... Voilà.
Tout public, familial quand même, hein, c'est ça?
Oui.
On peut dire ça?
Plutôt, c'est à partir de 10 ou 12 ans quand même.
Ok.
Oh, pas les petits...
Ok, un film que je regrette de ne pas avoir vu, que je voulais vraiment, mais il est encore à l'affiche, donc je vais pouvoir y aller, tiens, peut-être demain d'ailleurs. Orwell 2 plus 2 égale 5, Raoul Peck,
voilà, c'est ça, Orwell. Alors Orwell, bah, c'est un documentaire qui était présenté au Festival de Deauville, et qui est vraiment intéressant. Donc Orwell, vous connaissez Orwell, l'auteur qui est en fait George Orwell, c'est ça, vous le connaissez, l'auteur de
1984,
un chef-d'œuvre.
Une dystopie merveilleuse.
Voilà, un chef-d'œuvre qui de jour en jour m'effraie parce qu'on s'y approche de plus en plus, on y va, quoi. Et donc, le Raoul Peck va nous parler des derniers jours de cet auteur qui s'appelait en fait Eric Blair, voilà. C'est son nom, et son nom d'auteur, c'est George Orwell. Et donc, il est en train de... Il se prépare presque à mourir, il est malade, et on le découvre en train de finir hôpital, il écrit son œuvre. Donc, entre l'histoire de l'auteur, les extraits de films qui ont été réalisés par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a écrit, tout est riche.
Des extraits d'adaptation, tu veux dire?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ah, ok.
Il y a un film qui s'appelle 1984, il y a des extraits ou des bandes dessinées sur son film La ferme des cochons, je crois. La vache enragée, la ferme des animaux, enfin bref. Et donc tout ce film est ponctué à la fois d'histoires vraies de l'auteur, de témoignages, d'exemples de ce qu'on a fait de son œuvre et de ce qui se passe actuellement pour montrer qu'on se rapproche, hein, que bah, toutes les caméras qu'on monte partout, le fameux, comment il s'appelait déjà,
c'est Big Brother.
C'est ça, c'est pas le guide suprême, c'est non, Big Brother, mais... voilà. Donc tout ça fait réfléchir et un peu fiche la trouille.
Alors comme je ne l'ai pas vu et puis et que ça fait une éternité que je n'ai pas plongé ma tête dans 1984, aujourd'hui je me demande quelle est la résonance par rapport à la place de la femme dans la société. Il y a quelque chose là-dessus ou pas du tout?
Ben, je ne me souviens pas non plus. J'ai l'impression que c'est des humains. Ce n'est pas l'homme ou la femme, c'est des humains.
Oui, c'est ça.
On est tous presque comme dans la ferme des animaux. On ne sait pas si c'est un cochon, une vache, autre chose. C'est pas... Mais tout le monde est pareil, quoi. Mmh. On doit obéir à Big Brother, c'est, on ne doit pas penser. Et si Big Brother dit 2, c'est le titre pour ça est évocateur, 2 plus 2 égale 5.
C'est vrai.
Il y a une scène de plus ou moins de torture où on demande à quelqu'un 2 plus 2 égale 4, et tant qu'il n'a pas dit 5, on lui dit non, ça ne va pas, etc. Mmh. Jusqu'à ce qu'on accepte l'idée que, bah oui, 2 plus 2 égale 5, et puis comme ça, on est tranquille, quoi. Mmh. Et c'est effrayant, en fait.
Bien.
Mais à voir, pour réfléchir, c'est à voir, c'est très intéressant.
Et après, pour se poser la question de comment faire pour résister.
Oui, et ne pas y aller.
La guerre des prix, je crois que là on change de registre, Anthony Dechaux.
Alors, la guerre des prix, mais ce n'est pas agréable non plus, c'est un thriller. Alors, c'est le premier film d'un réalisateur qui... Alors, c'est drôle, parce que je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, quand on fait un premier film, généralement on met de soi. Alors, vous, c'est quoi, l'agriculture ou le commerce?
Puisque c'est le meurtre.
Il n'y en a pas encore pour le prochain. Donc, parce que l'histoire raconte l'héroïne de ce film-là, c'est Anna Girardot, qui est à la fois une commerciale et sœur d'un agriculteur. Il voit son frère gramer pour vendre ses produits, son lait, etc.
Oui. Et en fait, elle est dans une...
Et elle est d'abord elle est dans un supermarché, mais finalement, comme elle se débrouille bien pour vendre et qu'elle connaît très bien son milieu, elle monte en grade et devient une acheteuse. On appelle ça un acheteur, c'est-à-dire que quand on va acheter le lait, c'est toi qui impose ton prix, etc. Donc, et elle est parrainée, entre guillemets, par un dur des durs, qui est joué par Olivier Gourmet.
Oui.
Oh, le nom m'est venu tout de suite, je reviens. Donc on assiste à des scènes de négociations commerciales très tendues où si tu n'as pas obtenu un prix plus bas que ce que tu voulais, t'as perdu en fait. Mmh. Et ça, le film est intéressant là-dessus. Et c'est pour ça qu'il m'a répondu qu'il connaissait plutôt le milieu de l'entreprise et du commerce que celui de l'agriculture, même s'il avait un peu connu les deux. Là, il a tourné dans la ferme dans le pays de Bray. Et moi, je lui ai parlé. Mais alors, du coup, c'est normal qu'on mette le mot comme équitable, puisque le commerce n'est jamais équitable.
Voilà. Oui,
donc, il faut l'ajouter. Mmh. Et donc, on pourrait rêver un jour d'un monde où le commerce serait équitable sans avoir besoin d'étiquette.
Voilà.
Donc, le film est un mélange de films ruraux et un mélange de films de thriller. Avec un twist final qui est assez... J'en dirai pas plus.
On va écouter la bande-annonce alors.
Notre rayon yaourt a perdu 15% de sa valeur en 15 ans. Vous allez venir bosser ici à la centrale.
Je suis pas du tout experte en négociation.
Je suis sûre que vous serez capable de trouver des alternatives aux industriels.
Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale?
Ils veulent miser à fond sur le local. C'est le bon moment pour faire changer les choses.
C'est très bien, tout ça c'est du blabla.
La moitié des clients qui entrent dans nos magasins gagnent moins de 1 500 € par mois.
Vous attendez quoi de moi exactement?
Leur permettre de bouffer sainement à des prix abordables.
Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez?
Non.
La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs.
Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs?
C'est mon frère qui a repris l'exploitation.
Je crois que je vais tout arrêter.
Ah, c'est bien, tu vas faire un boulot à la con alors.
Parce que tu crois qu'éleveur, c'est pas un boulot à la con?
Fournisseurs comme vous, j'en ai beaucoup.
Ça veut dire quoi?
Qu'on poussera forcément les plus compétitifs. Je pense qu'il faut miser sur un challenger.
Et vous pensez à qui?
Contrairement aux industriels, notre lait n'est pas standardisé.
J'espère que vous savez ce que vous faites.
Du volume, du prix, c'est toujours pareil.
Mais
putain,
pas
quoi.
Du tout. Tu veux te faire écraser sans même essayer de te défendre, c'est ça?
Mais t'arrête quoi? Sans déconner, tu te prends pour qui?
Faut qu'on soit encore plus agressif sur les prix.
Moi, je vais devoir mettre à la porte des dizaines de personnes.
C'est quoi votre but? C'est d'avoir un petit pouvoir et d'humilier les gens comme ça? Je vous avais prévenu, c'est pas mon papa ici.
Vous avez pas compris? C'est pas une question d'argent.
C'est vous qui n'avez pas compris. À la fin, c'est toujours une question d'argent.
Même pas qu'à la fin, hein. C'est souvent, toujours, même au début, c'est une question d'argent. Bon d'accord, c'est un film gay sur le capitalisme.
En même temps, on est la preuve que c'est pas une question d'argent.
Nous, tu m'étonnes.
Ah oui, c'est un film sur le capitalisme, sur un film comment on se bagarre, comment on se défend, comment on est assez innocent et comment on se fait avoir jusqu'au bout, quoi. Voilà, j'en dis pas plus.
Mais n'en dis pas plus.
Voilà.
Maintenant, on va rigoler avec
oui,
chers parents.
On va rigoler, c'est vrai. C'est vrai,
on rigole bien ?
Oui, on rigole bien. J'y suis allée sans trop rien savoir et dès le... je trouvais que le démarrage, ça se passe dans une voiture. Et on voit deux frères et une sœur qui sont dans la même voiture, ouais. Des adultes, hein, c'est des adultes qui sont dans une voiture et qui se dirigent vers leurs parents, etc. On découvre plus ou moins que leurs parents leur a demandé de venir et s'inquiètent pourquoi, parce que s'ils sont convoqués, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, je n'avais rien su sur ce truc, et plus ça allait, plus je trouvais que c'était bien écrit. Vraiment.
Okay.
Et en fait, c'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Sa chère parent, c'est une pièce de théâtre écrite par Emmanuel Patron et sa sœur Armel, qui a eu tellement de succès que c'est devenu un film maintenant. Et il a très bien trouvé des moyens d'aérer cette pièce de théâtre. On n'est pas au théâtre ce soir, on est vraiment dans un film, une fiction. Bon, il a aussi changé les comédiens pour avoir un peu plus d'argent pour faire son film, hein, c'est le problème. Donc,
si tu as vu la couverture de Télérama il y a quelques jours, là, c'était justement sur les comédiens qu'on voit, les mêmes comédiens qu'on voit tout le temps.
Oui, c'est ça,
bon,
voilà.
Bah, pour vendre un film.
Voilà, c'est le problème.
Voilà.
Donc, les parents, c'est Miu Miu et André Dussolier, c'est vrai que le choix est bon. Hein. Les enfants, c'est Arnaud Ducré, un Rouennais, Cocorico. Pauline Clément, qui est de la comédie française, pour la fille. Et Thomas Olives, pour le jeune fils. Voilà. Donc, c'est vraiment des gens habitués à la comédie et bon. Ils ont des dialogues bons à dire, ça partout, la famille c'est beau mais c'est fragile. Le sujet c'est, voilà, les parents ont gagné à la loterie, j'aime bien le terme loterie parce que ça fait vraiment penser à des peccadilles, et donc ont décidé de partir, et ils appellent leurs enfants pour les prévenir, on va partir s'installer au Cambodge pour faire notre rêve de jeune, d'ouvrir un orphelinat. Donc la réplique est facile, oui, du coup nous on devient orphelin, disons. Donc voilà, et donc les enfants, il y en a un qui est toujours l'aîné qui a réussi en affaires, qui continue lui aussi à faire son commerce, il dit « tu n'aurais même pas nous en donner un petit peu », etc. Voilà. Et arrive la question fatidique, combien il vous faut pour être heureux. Et naturellement, les parents sont très contents d'avoir posé la question juste avant d'aller dormir, parce qu'ils savent que leurs gamins ne vont pas dormir. Donc à partir de là, la question du film, et on se pose aussi la question, combien j'aurais besoin pour être heureux, combien il me faut, etc. Donc voilà, c'est amusant, et il y a d'autres rebondissements, et ça va de plus en plus. Et le réalisateur m'a expliqué que la pièce était, dans le film, il avait fait en sorte que la famille vole en éclats, que dans la pièce, c'est les parents, les fils, les enfants qui deviennent un peu fous, et là, les parents aussi deviennent un peu fous. Donc voilà, la comédie fonctionne bien, j'en dirai pas plus. Quoique dans la bande-annonce, on l'entend, ils ont gagné je sais pas combien de millions d'euros. Donc ils ont de quoi donner à tout le monde.
Oui. Alors on écoute la bande-annonce pour le plaisir.
On arrête de s'inquiéter, ils vont être très bien.
S'ils allaient très bien, je vous aurais dit, les enfants, on va très bien. Pas venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer.
Salut les enfants.
On est rentrés.
Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe?
On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi.
On a gagné à la loterie.
Oui, pardon. Oui.
Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu?
Non. Ah bon?
Bah non.
Ils ont le droit de faire ça, là.
Combien vous voulez? De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux?
C'est compliqué.
Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser.
Non.
Ils vont passer une nuit épouvantable.
Ils m'ont donné ce que j'ai demandé.
T'avais demandé combien?
100 000.
100 000 euros?
100 000 euros!
Finalement, c'est assez jouissif, ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même.
Tu fais une hypoglycémie.
C'est gaffe!
150 millions?
La loterie, mon cul!
Oh, les gros bâtards!
Ils les ont filé un pourliche de voiturier!
On vous a donné 100 000 euros à chacun!
Vous êtes sous le choc, mais c'est normal!
On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman!
Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité.
Et donc, tout n'est pas dans la bande-annonce ?
Tout n'est pas dans la bande-annonce. Ah non, okay. non. Le switch, il y a un switch final encore qui est totalement inattendu. Et je pense qu'il n'était pas dans la pièce de théâtre. Donc, ça donne envie aussi aux personnes qui ont vu la pièce.
La pièce, d'aller voir le film. Bon, voilà. En plus, ce n'est pas les mêmes acteurs et tout.
Non.
Pas la même énergie, donc c'est bien.
Et je trouve qu'il exploite bien les extérieurs, justement, pour nous sortir de la pièce. Parce qu'ils sont souvent dans le jardin, ils font du vélo, ils se baladent en 4L, c'est drôle. Parce que les parents sont des anciens profs, donc ils sont quand même un peu de gauche, en principe. Et là, ils viennent un petit peu capitalistes, quand même.
Voilà. C'est marrant. Alors j'écoutais, je ne sais pas si tu avais entendu, il y a quelques jours, il y avait Sting qui était interviewé sur nos chaînes de télé, qui expliquait qu'il ne laisserait pas un centime à ses enfants. Ouais. Que dans sa pensée, dans son éducation, dans son système d'éducation, justement l'argent pervertissant tout, chacun fait œuvre pour sa vie.
Jobs aussi, celui qui a le Microsoft, je crois qu'il avait dit qu'il donnerait un dixième de sa fortune en héritage, ce qui leur laisse beaucoup plus que n'importe quel héritier français.
Mais c'est des bonnes questions, je trouve.
Oui.
Est-ce qu'il faut vraiment laisser une maison ? Est-ce qu'il faut vraiment laisser des choses ? Souvent, c'est des sources de conflits. Donc, bon, bref, j'ai pas gagné l'auto.
Après, il y a l'éducation qui. Ils ont déjà profité de l'argent en tant qu'enfant. Hein. On n'a pas la même éducation dans ces milieux-là.
Alter Ego.
Alors, c'est une autre comédie française et on rit encore beaucoup. C'est bien.
Okay.
C'est un peu farfelu. Il y a un brin de fantastique. L'histoire est simple. Un homme heureux, c'est joué par Laurent Lafitte. Il est heureux. Physiquement, c'est Laurent Lafitte, mais sans les cheveux. Ça change quand même un peu. Il a une femme avec laquelle il est heureux. Il a des enfants. Tout va bien. Il est dans un pavillon. Sont sa pelouse, tout va bien, quoi, il n'y a pas de raison. Et vient s'installer dans la maison mitoyenne un homme, c'est son portrait type avec des cheveux. Donc son sosie en mieux. Alors ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a que lui qui le voit. Les autres ne voient pas du tout la ressemblance. Donc ça le travaille. Et du coup, il devient jaloux, enfin, il devient mesquin, il devient malheureux. Alors la question, est-ce qu'on a tous un sosie meilleur que nous et qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, quoi ? Donc c'est drôle, c'est difficile à expliquer mieux parce qu'il essaie de faire des vacheries.
Ah oui. Alors,
parce que non seulement c'est son voisin, mais en plus c'est son collaborateur au travail aussi parce qu'il a déménagé parce qu'il a trouvé du boulot là. Et là encore, il est meilleur que lui.
D'accord.
Donc là, ça n'arrête pas.
Ouais.
Donc il y a tout ce qui est conventionnel, les pots d'amitié, le pot de l'amitié avec tous les voisins. Et puis après, ça se complexifie un peu. Les deux femmes se copinent vraiment, les deux épouses se copinent vraiment. Et puis après, on fait des repas entre amis. Mais lui, il est toujours en train de regarder. Lui, il n'est pas dedans. Hein. Et puis un jour, on organise une virée en camping. Et là, ça va devenir dramatique. Je n'en dis pas plus.
Non, n'en dis pas plus.
Mais jusqu'au bout, le switch final est encore cruel et drôle. Drôle et cruel, oui. Pauvre petit père.
Alors, on écoute la bande-annonce.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... ça va pas être possible, ça.
Tu vois le voisin derrière ? C'est dingue, non ?
Ah, il y a sûrement quelqu'un. Julien Courbet.